Bonjour et bienvenue à notre briefing technique en préparation, en négociation sur la biodiversité à la COP15 à Montréal. Je suis Adalbert Jans, le porte-parole de la Commission européenne en charge de l'environnement. Et je suis ici en salle de presse de la Commission européenne, ce qui est une expérience assez intéressante puisque la salle de presse est complètement vide, à part nos excellents collègues interprètes que je remercie d'avance de rendre possible cet événement. Nous utilisons la salle de presse uniquement pour des raisons techniques, mais en tout cas, je suis très heureux de voir que nous avons beaucoup de collègues qui sont connectés et intéressés par notre briefing aujourd'hui. Nous allons commencer immédiatement avec ce tout petit retard par des présentations par quelques collègues qui sont très, très engagés dans les négociations, suite à quoi nous aurons une bonne demi-heure, une heure, j'espère, pour vos questions. Si vous avez des problèmes techniques, par ailleurs, n'hésitez pas à en parler dans le chat et nous essaierons de vous conseiller sur la résolution. Voilà, avec ceci, je propose que nous passions directement aux présentations. Et donc, je commencerai par celle d'Alice, Alice Rueza, qui a donc la parole. Alice, si tu veux bien appuyer sur le bouton « Speak », pour prendre la parole. Alors. On y était presque. Il semblerait que tu aies deux sources de micro d'ouvertes, ce qui a provoqué un petit écho. N'hésite pas à réessayer. Ça y est.
Hello, can you hear me?
Hi, yes, we can hear you a little bit too well, in fact. We can hear you double. Yeah, can you just try to maybe cut any other source of audio that you might have around?
Good, I've cut it now. I think I had two connections on.
Perfect, that works. Over to you. We're almost there. I'm sure we'll be able to iron out these small technical issues shortly. There we go, Alice is back. All right. Let's try to give her just 1 second to sort it out. There we go. I can see you on the screen.
Okay. Let me know if I should start now. Okay. So thank you very much for having me today to talk about what's at stake at COP15 and implications for Africa. So I'll start by setting the scene. As we know, Africa is rich in biodiversity. We have 30% of the world's 20% of gold.
I'm afraid we just lost Alice for some connection reasons, which will hopefully be sorted out very shortly.
Sorry about that.
Alice, we lost you for a second, but you're back now.
I'm back? Okay. I think I'd only made the point how Africa is rich in biodiversity. But a significant percent of that biodiversity, of course, is under huge threats, used unsustainably. We're losing almost $195 billion annually of natural capital through illicit financial flows, illegal mining, illegal logging, and on and on. And yet 70% of our people depend on biodiversity. So collectively, we have a lot to gain by making sure we put in place a development pathway that positions our natural capital as a strategic natural resource and emphasizes sustainably managing it for the future. And what we urgently need now as we go into COP15 is a plan that unites all our leaders, our governments, in dealing with these existential challenges, but a plan that is agreed globally and implemented locally. A plan that clearly sets measurable and time-bound global goals for nature, just as the Paris Agreement, with a net what that did for.
All right, we lost Alice again, just for 1 second. Yeah, it's apparently it's a bandwidth that's dropping every now and then. Alice, are you back with us?
Yeah, I'm sorry about that. I think with the location I'm in may not have the best connection. Anyway, I was talking about COP15 being a once-in-a-decade opportunity. And for us at WWF and a growing number of country leaders, we see this agreeing on a nature-positive goal as extremely urgent. And we already have good momentum because we have political leaders representing 94 countries, among them 17 African leaders, including the president of the European Commission, that have agreed to the leaders' pledge for nature. Of course, tackling an issue as big as this will require changes across all areas of society. Just like how the Paris Agreement united the world against the climate crisis, the Global Biodiversity Framework has the power to spark this very change. And we're looking for a robust and fit for purpose as a crucial first step. We need to heal our broken relationship with nature. And unless we act now and commit to reversing nature, even greater.
Alice, you're back with us. Maybe what we can suggest is that we cut your image, which can help a little bit with the bandwidth, although it will make it less nice to listen to you. But I think it's a necessary measure. Let's try that.
Yeah, I agree. And our key areas in which we are looking for the Global Biodiversity Framework to galvanize action. The first one is a nature-positive world by 2030. And this means that we need to see the catastrophic loss for nature reversed so that by 2020 we have more nature, by 2030 we have more nature than we have now. And this action on nature is essential to reducing our vulnerability to future pandemics like COVID-19 and others, and tackling the climate crisis and protecting our livelihoods. So we are looking for governments to secure a global agreement on biodiversity that is at least as comprehensive, science-based and ambitious as the Paris Agreement. The second
one. So sorry about that. Hopefully we'll be able to proceed with Alice's presentation shortly. Alice is trying a new technical solution, so hopefully that will work a little bit better. Alice, are you with us?
Amy?
Yes, we can. Please go ahead.
Yes, sorry about that. I'm trying now to use my phone. and I'll try to go through this quickly. Can you hear me?
Yes, we can.
Okay, great. I had already talked about the first goal that we have, the first thing we have, first area we've identified, which is the a nature positive world by 2030. And by that, I said we're looking to have more nature than there is now. And this action is essential for us to reduce our vulnerability to future pandemics, but also tackling the climate crisis and protecting our livelihoods. The second one was the restoration globally by 2030. So for that one especially, we would like to see work closely within a rights-based approach. Now, at least 21 countries in Africa have joined the High Ambition Coalition for Nature, and they're championing this goal of protecting at least 30% of the world's land and oceans by 2030. These critical biodiversity areas represent the most important sites for conservation and will be key to meeting our global biodiversity targets. Now, WWF supports this target as well, as long as it's achieved through a rights-based approach that respects and secures the rights of indigenous people and local communities, and also respects their free, prior, and informed consent. But protecting these areas isn't going to be just around drawing a line in the sand. It's also about increasing the integrity, area, and connectivity of natural ecosystems to better allow nature and people to thrive. Number three is that transforming action across key production sectors to tackle the drivers of biodiversity loss, one of the biggest ones being agriculture. We know that agriculture occupies about one third of the Earth's total land area and accounts for 70% of water use. Global food systems are the number one driver of biodiversity loss. So this global biodiversity framework that we're going to be negotiating, it offers a unique opportunity to agree on global collective action required. Biodiversity loss. Number four, we will be looking for implementation. This is extremely important. Our governments in Africa are calling for implementation. And of course, any goals we set are only going to be meaningful if we actually are implementing them. And for this, we are looking for the GBF to include a mechanism that holds all parties to account, collectively falling behind, waiting to review progress and increase action if they are not on track to achieve the targets. And it is important to emphasize that these will be all the action targets, as well as the biodiversity financing and other means of implementation. The fifth one is about finance. Financing is extremely important. There's nothing we can do without finance. And on this, we are looking for aligning the public and private financial flows with nature-positive practices and eliminating or repurposing perverse incentives, especially reducing harmful subsidies. We recognize the EU as a major contributor to biodiversity finance. We welcome that they've pledged to double biodiversity spending from its external budget and spend at least $7 billion over the next 6 years. A comprehensive finance and resource mobilization strategy to generate a significant increase in funding for biodiversity from all sources, from ODA, from domestic biodiversity finance, public and private finance, because only with enough money in the right places and with the urgency required can the transformative action we're looking for really take place. Number six is about strengthening nature-based solutions. Nature, of course, holds the answers to many of our pressing challenges, and we are losing it considerably, as I mentioned earlier, especially in Africa. And so we will be looking to this GBF to provide the signpost and really recognize the value of equitable and right-based nature-based solutions for both people and biodiversity. Last but not least is a human rights-based and whole-of-society approach that must be integrated across the entire GBF, including the right to a clean, healthy, and sustainable environment. We're calling for this human rights-based approach, ensuring the full, effective, and equitable participation of Indigenous people and local communities, women and girls, youth, and other people in vulnerable situations. It is important that this the substantial proportion of the world's biodiversity provides services to people who largely depend on them, and especially whose customary institutions and indigenous people are depending on them. So taking a right
Sorry, we lost
Hello?
Us again. Yeah.
Hi, did you
Alice.
Hear me again?
Yes, you're back.
Yeah? Okay, good. But you had all the 7 points that I mentioned.
Almost. I think we missed half of the seventh.
Half of the seventh, which was the human rights-based
Correct.
Approach?
Yes.
Okay. Yes, I think the main point there was really to ensure the respect of human rights and the full, effective, and equitable participation of Indigenous people, local communities, women and girls, and youth and other people. And really it was about taking the, in the context of achieving our global biodiversity targets, it means that our biodiversity policies, governance and management do not violate human rights, and that those implementing such policies actively seek ways to support and promote human rights in their design and implementation. So those were the seven, and I wanted to finish really by making a few quick points about the EU-Africa partnership. We are, of course, it continues to play a very strong role in shaping and adopting an ambitious GBF, and we see, including the commitment to provide adequate financial support. So there are two areas that we're seeing this as continuing. One is about enhancing the availability of biodiversity finance in an effective and efficient use at all levels, supporting African partner countries to revise their national biodiversity strategies and action plans, and to align them with the global biodiversity framework, and to define new and complementary activities. Secondly, also in the context of the partnership, is strengthening capacity that will be required at all levels of African partner countries to successfully implement SAPs. So capacity building, technical assistance, technological cooperation, and knowledge sharing, we see this as a need to be significantly scaled up. So in closing, I will just say that just as the global goal for net zero emissions by 2050 is disrupting the energy sector so that it shifts towards renewable, we see Nature Positive 2030 by 2030 also disrupting the sectors that are the drivers of nature loss, including agriculture, fishing, forestry, infrastructure, and extractives. Our society is at the most important fork in history and is facing the deepest systems change and around the world, and what is perhaps in the most existential of our relationships and one with nature. So all this time, it's becoming more and more obvious that we depend on nature much more than nature depends on us. Therefore, the COP15 Biodiversity Conference is a moment when the world needs to come together for nature. We need a plan that is both inclusive and fair for everyone, delivering on all three objectives of the convention, on the rights-based approach, on the rights of indigenous people, recognizing and protecting and restoring nature, and that will only be achieved by addressing the drivers of biodiversity. And above all, we need to deliver lasting results at a greater scale, justly and with greater urgency than we've ever seen before. I'll stop there. Thank you very much, and apologize for the bad connection.
Thank you very much indeed, Alice, for this full overview of all the main issues. I think we got the bulk of what you were presenting. I have to say that with the slightly problematic line, we've also missed certain bits and pieces. And more germanely still, we are not necessarily are not always able to provide interpretation when the line is not of good enough quality. But we will continue to do our best to do so. We were hoping to have Stanislav Mueba with us, who unfortunately doesn't seem to be able to connect. So I will give the floor to our next speaker, Hugo Chaly, who will also be able to perhaps touch upon some of the points that Alice mentioned, so that we also go a little bit more in depth of these. And in case anyone has missed some of the key points that she was making, perhaps Hugo can help also elaborate on this. Hugo, the floor is yours.
Well, good afternoon. Thank you, Adalbert. And I'm Hugo Chaly. I'm the EU lead negotiator for COP15, and I will try to master the technology and present a couple of slides. So we'll see if the Murphy principle will apply, that whatever goes wrong will go wrong. So let me see. Oh yeah, here we go. So now the question is, do you see the slide? Sorry.
Yes, we can see them. So okay, far, so good.
So basically, the background for what we're doing these days has been given by Alice, so I will try to skip some of the parts. Let me just, as by way of introduction, say what Alice was talking about and what we're concerned about is a global biodiversity crisis caused by a number of drivers, indirect and direct, but mainly linked to the fact that we are using nature and biodiversity at an unsustainable rate, which has led to a skyrocketing extinction rate, as you can see on this slide. Let me know if the slides move.
They don't, as a matter of fact. I think we see the wrong screen. Actually, we see the PowerPoint app, but not the slideshow view.
Okay. Do you see it now?
Yes.
Okay, it's not the right format, but then I'll better go with this. Okay, and then I think I would like to complement to what Alice says. It's not only about nature. It is what we're living now is a threat to humanity, because almost half of the global GDP is linked to nature. And biodiversity loss, climate change, and pandemics are interlinked. And we need to make a recovery. And for that one, can you still see the slide?
Yes, we can, yeah.
Okay. For that, we need to focus on keeping what we have, restoring on some of what we have lost, and use what we have sustainably. Now, really, that is putting it into a nutshell. It's not something that we do because we want to do something for somebody or something else. We're doing it for ourselves because our economy and society is built on a healthy and resilient biosphere. So what are we hoping to adopt? We adopt a new transformative and ambitious global biodiversity framework containing commitments for action by all stakeholders, so not only states, but also business industry. We want to complement that framework by a mechanism of monitoring, planning, and reporting on and review of implementation. We want to have a good package on mobilization of resources, and we want to mainstream biodiversity into all policies. In addition to that, we want to solve an issue which is particularly dear to our African partners, which is the issue of digital sequence information on genetic resources related to access and benefit sharing derived from the utilization of genetic resources. What is the framework going to look like? I hope you see it on screen. We have a 2050 objective, which is living in harmony with nature. We have four goals that we want to, of outcomes that we want to achieve by 2050, with some of them with intermediate outcomes by 2030. And we have 22 in the meantime, or even 23 targets that show, that indicate what actions we should have taken by 2030 to arrive at the overall objective in 2050. So we have a vision for 2050. We will have a mission for 2030, what we will have achieved at that point in time, with goals that indicate outcomes for 2050 and with targets that indicate what should we all have done by 2030 to ensure achievements of the goals. And in order to keeping track on what we're doing, we need a strengthened monitoring and review of implementation, which means we need a monitoring framework with headline indicators, and we need a cyclical process with national targets, with a global gap report based on national reports that will actually allow us to see whether what we're doing nationally will take us to the outcome in 2050 and whether we need to adjust our national targets in that context. So to spend a couple of minutes on what we would like to see at the end, which I think would be beneficial to move us forward to sustainability. We want to see an overall solution that is promoting the sustainable use of biodiversity. The GDF therefore should address unsustainable practices in agriculture, forestry and fisheries, including in the EU. We want to integrate biodiversity across policies and sectors, and we want ambitious targets to address the direct drivers of loss, not only for the sake of nature, but for sustainable livelihoods and poverty eradication. Pollution is a health and biodiversity issue. Invasive alien species threaten food security, and so on. We need to establish a link between ecosystem restoration and nature-based solutions. We need to invest in actions that have multiple benefits, most likely multiple benefits to biodiversity, climate change, and pollution. We actually need to clearly work on the issues operational provision on mobilizing resources from all sources, domestic and international. And we need to fully implement the third objective of the CBD on access and benefit sharing. Now, that, as I said, we need to establish where we want to be in 2050 and what we need to do until then. So I think in the goals, we want to specify that we want to halt extinction of known species by 2030 and halt human-induced extinction of known and unknown species by 2050. We want actually to minimize the extinction risk, promote ecosystems integrity, genetic diversity, and decreasing the area of natural ecosystems. That is one of the goals where we want actually numeric targets for 2050. We actually want to improve the valuation, the sustainable use of biodiversity and ecosystem services, and with a measurable ambition level for the reduction of the ecological footprint of human activities. We want another goal where we establish that by 2050 we should have fair and equitable and effective sharing of benefits derived from the utilization of genetic resources, and we want by 2050 be at the stage where we have mobilized the resources from all sources that are necessary for achieving that goal, including but not limited to international funding. Finally, on targets, there are 23 currently, so I can't go through all of them. So basically, we have a number of targets that look at the protection and restoration of ecosystems. We have a number of targets on sustainable use, such as the reduction of the use and toxicity of pesticides, reduction of excess nutrients, sustainable use of wild species, eradication of overfishing, wildlife trafficking, illegal logging, sustainable use in agriculture, forestry, and aquaculture, mainstream biodiversity across sectors, application of nature-based solution, closing the finance gap for biodiversity with financing from all sources, promote more simple and effective frameworks for benefit sharing on genetic resources. So I think across the board, we are interested in a balanced framework that actually promotes sustainable use as much as it focuses on conservation and protection of nature, and also is conducive to fulfilling also the third objective of the CBD on access and benefit sharing. And I will stop here and certainly remain available for questions. Thank you very much.
Un tout grand merci, Hugo, pour cette présentation. Évidemment, le sujet est très complexe et les présentations sont denses, donc je crois que nous pourrons aussi être en mesure de partager la présentation PowerPoint avec vous après l'événement pour que vous puissiez l'étudier plus en détail. Avec ceci, je passerai à la troisième présentation avant que nous passions à vos questions, et ce sera celle de Chantal Marinissen. Chantal, es-tu avec nous ?
Oui, je suis là. J'ai une présentation à partager. Je présume que j'appuie sur l'onglet présentation. Je suis désolée, je ne suis pas très, très douée. Donc, on va essayer. Et je vais suspense. Ici. Oui. Désolée de vous faire. Normalement, vous devriez le voir maintenant, je
pense. Tout à fait, on y est presque, oui.
Parfait. Oui, je vais slideshow.
Juste pour être sûr. Okay. Non, ça, le slideshow marche pas vraiment puisque ce n'est pas le même écran en fait, j'ai l'impression. Mais en tout cas, on voit l'appli PowerPoint avec le premier slide. Donc, je pense qu'on peut s'en sortir comme ça.
Est-ce que vous voyez maintenant le...
On voit que le premier slide et on voit l'appli PowerPoint. En fait, on ne voit pas le slideshow.
Oh, c'est dommage.
On ne peut pas le voir en plein écran, mais on s'en sort très bien
bon,
comme ça.
On va devoir faire comme ça parce que sur l'écran, ici, c'est en plein écran. On a mis le slideshow. Je vais peut-être commencer parce que sinon on va perdre trop de temps. So, and I'll switch to English if you don't mind. The EU's been supporting biodiversity in Africa for over 30 years now. And recently we've made a new commitment. In fact, our President von der Leyen, in September at the UNGA meeting, pledged that we would double our financing to biodiversity over the next financial period. And that is equal to 7 billion euros that would be spent in support of African countries and other partners on biodiversity. We've made that commitment on behalf of the Commission. We're also working with other partner countries, with our member states, and also with MDBs, and we're calling on them to make similar commitments to us, because we believe that we really do need to join forces on the financing to support partners if we really want to achieve the ambitions of the global biodiversity framework. To maybe explain what we're doing as the European Commission, the European Union, we've got three strands of activities. The first one is to support the sustainable use, but also the restoration of high biodiversity value areas. The second one is to tackle wildlife and timber trafficking to reduce the pressure that exists on wildlife and on forests. And the third one is to integrate biodiversity into the key sectors of our cooperation, namely agriculture, fishery, energy, cities, other sorts of infrastructure, mining that we're also looking into, and all the other sectors that are relevant to our cooperation. This is supported by an approach on knowledge, on research, including capacity building, which is very important to us, and information systems that allow us to monitor with our partners the situation of ecosystems and biodiversity. We take this in a
still on slide one. I think there is a problem again.
Okay, maybe I'm afraid I understand that we're still on slide one and you can't see the other slides coming up.
That is indeed correct. Yeah, we've been texting a little bit behind the scenes.
Okay.
There we go. Now we see.
Now you see it. Well, we might have to keep it this way. I'm sorry about that.
That is
fine, yeah. So I was just talking about the little, I was going to go on to the human rights. As with all of our cooperation, we take a human rights approach. That means that we want to have a community-based, we want to work with indigenous peoples that are extremely important, as we all know, for biodiversity, sustainable use, conservation. Gender and youth are various other aspects of the human rights that are important for biodiversity. And these are horizontal activities that support all three of the major strands of our work. Now, to give you an example of an initiative that we've been working on for now a couple of years, actually, is Nature Africa. It's an EU flagship for people and nature. It takes a landscape approach. So we will be supporting a high biodiversity ecological biome, but within its landscape. We are, after all, international cooperation department, so we take a people-centered approach. On this slide, I hope you can see it, but I think it will be shared with you afterwards. You'll see the different areas in which we are, the different regions where we'll be working in. So you have the Central African Congo Basin, but you also have different biomes in Southern Africa, Eastern Africa, Western Africa, where we will be, where we'll be working. What we do is look at it from both a conservation of the ecosystem or restoration in some cases, and a livelihoods approach. Most of the financing goes to supporting the local populations that live in and around these landscapes. Developing sustainable energy, developing agricultural value chains, other private sector initiatives to promote their livelihoods. So we've got different types of approaches because we are talking about different types of ecosystems. You've got the Congo Basin forests that I mentioned, but there are also transhumance landscapes in Central Africa. There are West African forests, the Sudano-Sahelian savannas of West Africa, the Eastern Rift savannas and watersheds, and also the transfrontier conservation areas in Southern Africa. There are four coastal and ocean windows that you can see on this map that we will be working in with our partners. So if I go to the, next slide, this is just to demonstrate the landscape approach that we'll be working with. So the linking of the conservation and the protected areas, the inclusive work with partner countries, but also regional and local authorities, local communities, civil society, the private sector, and we want to obviously work with our member states and other EU partners, and the enabling conditions that we'll be working on. So the security of land tenure and user rights are extremely important, and the cross-sectorial planning, programming, the inclusive governance, and the monitoring that are aspects that really do need to be addressed within these approaches. So we're talking about three different sort of bricks, if you want to build upon, the governance and law enforcement, the conservation with the capacity building, and the development of a green economy in these landscapes with the energy, forestry, fisheries, agriculture, other types of private sector development as well. There could also be education and health, tourism, depending on where we are. Now, one example that we've been working with the Democratic Republic of Congo on for over 30 years now is the Virunga National Park. It's the oldest national park in Africa. It's the second oldest in the world. It's the most biodiverse ecosystem in Africa, with the greatest amount of bird species, reptiles, and mammals. It goes from tropical rainforest to savanna to mountain forests. As you can see, there's also a very active volcano, and there is the huge Lake Edward Lake in the middle of the park. It's in one of the poorest areas of the world. There are 5 million people living about one day's walk from the park. You may have read that this area, North Kivu, is currently subject to extreme unrest, many displaced, thousands of displaced people at the moment, and yet the work of the park is going on. It's not just a question of conserving the ecosystems, it's also the development of livelihoods for the local community. This started with the construction of a hydroelectric plant. Now there are four. They are currently building the fifth hydroelectric plant. Whenever the situation sort of calms itself down, the bombing stops, they start building again. They are also working on the development of agriculture, cocoa, coffee, oil, palm, with cooperatives, smallholders, that they are helping secure their land tenure, but also secure their production, providing the conditions in which they can go to their farms without getting killed, and actually extracting the production and helping them transform it and getting a good price. They'll also be working on traceability to be able to export it to the European Union in line with the new deforestation regulation. This is, I think, one very good example that's going on in some very extreme conditions through good cooperation between the European Union, the Congolese authorities, both national and local, and the local communities in the area. Now, Nature Africa is not our only initiative. There's also the Great Green Wall. This is an African-led initiative that we support with other member states as well. We call it a green mosaic. It's really a question of restoring ecosystems, again, in different landscapes. The landscapes are very different from one another. The solutions are very different. We take a local approach where we adapt to the local situation. We also have forest partnerships. You may have heard that our president signed five of them during COP27 2 weeks ago. And we are launching with the African Union and the local basins authorities, watersheds for Africa initiative that we're working on at the moment. Maybe to go into the most important one, we think, for biodiversity and especially for the restoration of ecosystems, it's the Great Green Wall. We've got five pillars: sustainable agriculture, land restoration and ecosystems, climate resilience, infrastructure, institutional governance and capacity building. Our president has made a pledge of over $700 million per year. We're very happy that we have reached $714 million in 2021. We're working on the 11 accelerator countries plus seven that are interested to work with us on this approach. Now, all of these more landscape type approaches are also supported by other biodiversity related programs. For instance, what we call the ACP-MEA program, which provides capacity building for the implementation of the multilateral environment agreements in Africa, the Caribbean and the Pacific. It provides support to the negotiators and implementers in our partner countries, both to negotiate but also then to transpose the agreements in their national legislation. Then we have the BioPama program, which helps us to develop knowledge and to monitor protected areas and ecosystems health. We will be continuing this support through the three regional observatories that exist in Africa, in Central Africa, based in Cameroon, Nairobi for East and Southern Africa. And there's also a new observatory that's developing extremely fast in West Africa that we will be supporting in the next coming years. And then we have what we call the SWIM program, which is a sustainable wildlife management program. We work there with national, local authorities, civil society, local communities to develop ways of improving wildlife conservation and food security for local populations. These take very local approaches, recognizing the different conditions that exist. This program's also been looking at the link between zoonotic diseases and wildlife trafficking and trying to promote some solutions, or at least give us some ideas on how we can prevent this in the future. And I will stop there. Thank you for listening to me, and I'll hand back the floor to you.
Merci beaucoup, Chantal, pour cette excellente présentation. J'espère aussi que tu pourras partager la présentation PowerPoint avec nous. Nous pouvons le faire directement dans Interaction. J'aimerais aussi faire passer un petit message de nos collègues interprètes que nous mettons aujourd'hui à dure épreuve avec les différentes conditions de son que nous leur imposons. S'il est possible que pour vos interventions et pour vos questions, vous utilisiez un casque avec un micro, cela faciliterait énormément notre travail, ça nous permettrait de vous offrir le meilleur service possible. Ceci s'applique d'ailleurs tout autant à nos collègues journalistes qu'à nos collègues intervenants. Voilà, avec ceci, nous avons un peu de temps pour passer à vos questions. Si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à lever votre main dans le système, suite à quoi je vous passerai la parole, que vous pouvez prendre en appuyant sur le bouton Speak une fois que je l'annoncerai. Je vois déjà un premier volontaire, Badildon Kawanda, qui a donc la parole. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton Speak. Voilà.
Allô, vous m'entendez?
Oui, très bien.
Ok, merci beaucoup. C'est très intéressant cette rencontre. Je suis Badilon Kawanda, journaliste basé dans la ville de Kikwit, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, dans le bassin du Congo. C'est très intéressant. Les trois interventions, mais j'ai deux petites questions. La première, c'est adressée au deuxième intervenant. La deuxième, aux organisateurs de cet événement. Alors, pour le deuxième intervenant, il a parlé des objectifs 2050 avec mi-parcours à 2030. C'est très intéressant. Et nous sommes dans un pays où on dit pays solution, où les problèmes de biodiversité, c'est la restauration de la biodiversité est une valeur que nous devons mettre en pratique. Alors, question, comment pouvons-nous avoir tous ces moyens-là pour arriver à préserver, puisqu'il y a quelquefois, on enregistre des phénomènes de feu de brousse qui essayent un peu de déranger de forêts qui sont chez nous. Il y a aussi des coupes de bois. Il y a des sociétés qui arrivent à décimer certaines forêts, quelles que soient à l'ouest du pays ou à l'est. Alors, comment nous pouvons arriver à mettre fin à cela? Alors, deuxième question aux organisateurs. Comme journaliste, est-ce que nous ne pouvons pas créer un réseau où nous pouvons de temps en temps faire des reportages? Personnellement, je veux vous partager ce que fait le gouvernement pour le reboisement, justement pour restaurer la biodiversité. Est-ce que nous ne pouvons pas créer un réseau de journalistes pour partager de temps en temps des informations, des stories qui pouvaient faire voir est-ce qu'on est dans le bon sens, est-ce qu'on a des difficultés et comment on peut contourner les difficultés qu'on peut rencontrer? Donc, je propose qu'on ait un réseau, même un groupe WhatsApp où nous pouvons partager des informations. Voilà un peu ce que je pouvais dire pour l'instant.
Merci beaucoup. Question extrêmement pertinente l'une comme l'autre. Sur la déforestation, je passerai rapidement la parole à Hugo. Sur la question d'un réseau entre journalistes, j'ai cru comprendre en lisant le chat que, qu'un tel réseau existe déjà, en tout cas en partie. Donc je pense qu'il serait peut-être utile que Julien Chambol, qui semble être au fait de ce qui se fait, fasse ensuite le suivi avec vous directement. Mais dans l'immédiat, je passe la parole à Hugo pour répondre à la question sur la déforestation, le déboisement.
Voilà, merci Adalbert. Et c'est une question extrêmement pertinente. Je crois qu'il y a des réponses à deux niveaux à ça. Dans un contexte national, je crois que la philosophie dans nos négociations à la COP 15 est que il faudrait créer un cadre au niveau national qui facilite l'identification des moyens au niveau national pour contrer à ces menaces, surtout dans le contexte de la bonne utilisation des ressources publiques. Mais nous sommes bien conscients du fait que, en premier lieu, et c'est ce qu'on nous dit souvent, il y a au niveau national, il manque de ressources et de capacités pour bien planifier et pour même identifier les ressources nécessaires. C'est pour ça que dans le contexte de la CBD et de discussion sur le cadre, il y a un consensus sur le fait que dans le contexte du partenariat international, un accent doit être mis sur la création de capacités au niveau national et qu'une sorte de facilité pour la mise en œuvre rapide du suivi des résultats de la COP est nécessaire, qui est ciblé en premier lieu sur la création des ressources et des capacités au niveau national. Et pour ça, évidemment, le partenariat avec des pays comme l'Union des pays européens est important. Et je crois que les différentes initiatives que Chantal a présenté montre bien que l'Union essaie d'être un partenaire fiable et un partenaire présent avec lequel on peut travailler en vue de voir comment résoudre ces défis qui sont devant nous. Voilà, merci Albert.
Merci beaucoup. Et effectivement, je pense que certains éléments de la présentation de Chantal vous sont également extrêmement utiles. Alors, je vois que nous avons plusieurs questions dans le système. Juste un petit conseil technique, n'hésitez pas à garder votre main levée si vous voulez prendre la parole. Comme ce n'est qu'une main virtuelle, il n'y a aucun risque que cela vous fasse mal à la longue. Comme ça, j'ai une vue d'ensemble de qui souhaiterait poser une question. Avec ceci, je passe la parole à John Tsongo. Please go ahead. You need to press the speak button.
Oui, merci beaucoup. Je suis John Tsongo. Je suis journaliste basé en ville de Goma. Ma proposition était juste de dire, d'appuyer d'abord la proposition de l'ami Bertin, je crois que c'est Bertin, qui a proposé à ce que tous les journalistes puissent avoir un réseau, un groupe WhatsApp par exemple, où ils pourront discuter de toutes les questions qui sont relatives au réchauffement climatique, à l'environnement. Vous savez, par exemple, comme il a évoqué la question de dire que nous sommes en RDC, où on considère le pays comme pays solution parce qu'il regorge toutes les potentialités nécessaires pour endiguer le réchauffement climatique. Alors, juste une autre proposition à ajouter par rapport à ce que l'ami a dit. Au-delà de ces forums, nous devrions quand même penser comment réaliser chaque fois des reportages conçus sous forme de mini-projets. Ces mini-projets, nous nous focalisons par exemple sur la production de la braise. Nous disons combien d'habitants de Goma utilisent par exemple la braise, quel est l'impact de cette utilisation de la braise sur les écosystèmes qui les entourent, et mais également comment est-ce qu'on peut arriver à inciter le gouvernement, soit à inciter tous les autres partenaires à participer à endiguer ces réchauffements climatiques qui découlent, n'est-ce pas, de la dégradation des écosystèmes. Je vais finir à dire, la semaine, le mois dernier, et en novembre dernier, en octobre, pardon, j'ai animé un panel lors d'un événement sur l'environnement et intitulé Expo Vert, où j'ai parlé de l'impact de la non-exploitation du gaz, du gaz méthane du lac Kivu sur les écosystèmes forestiers de la province du Nord Kivu. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent Goma, Goma est une ville située à proximité du lac Kivu, et le lac Kivu renferme du gaz. Alors, ces gaz à tel potentiel, il peut être utilisé pour produire de l'énergie électrique, il peut être utilisé pour fournir du gaz de cuisson, donc du gaz de cuisine, mais il est inexploité. Alors, j'ai établi le lien, je me dis, chaque année, chaque semaine, pardon, il y a à peu près 28 tonnes de braise qui sont consommées par les habitants de Goma. En même temps, il y a du gaz méthane qui gît dans le lac Kivu sans être exploité. Alors, des thématiques comme celle-là qui intéressent le journaliste, qui intéressent aussi les conservateurs, devraient également intéresser une réforme, une plateforme comme celle-ci où nous essayons d'échanger par rapport à tout ce qui peut aider la planète à participer à la réduction des émissions du gaz à effet de serre pour maintenir justement la température en deçà de 1,5. Pour finir, il y a la COP27 qui vient justement de se clôturer en Égypte. Certainement qu'il y a eu beaucoup de résolutions, comme lors des précédentes COP, mais le plus souvent, nous, on ne voit pas l'applicabilité de ces résolutions. Alors, est-ce que les journalistes mondiaux qui parlent, qui s'intéressent à la question du climat, peuvent se constituer en un réseau qui bénéficiera également du soutien de ces 100 milliards de dollars qui ont toujours été promis par les prenons part à des différentes COP sur le climat, pour que les journalistes qui se sacrifient, qui sacrifient leur temps, leurs énergies, leurs intelligences à rédiger à propos des matières environnementales, puissent aussi avoir juste une motivation qui puisse leur permettre de bien mener les recherches dans le domaine environnemental pour eux aussi contribuer à endiguer le réchauffement climatique. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Une intervention très riche que je vais devoir peut-être distiller en quelques questions précises que nous pourrions poser directement à nos intervenants. Un aspect qui serait peut-être particulièrement intéressant est de savoir comment inciter les gouvernants dans différents pays, en particulier africains, à s'intéresser davantage aux questions de la biodiversité, à prendre davantage d'actions. Je pense que c'est au cœur des négociations à la COP15. Et je me demandais en particulier si Alice n'aurait pas quelque chose à dire à ce sujet, comment le résultat de la COP15 pourrait conduire à une action plus ambitieuse en matière de biodiversité en Afrique. Alice, je ne sais pas si c'est une question qui pourrait éventuellement t'inspirer, voir un autre aspect de ce qui a été soulevé. Je ne sais pas si tu arrives à te connecter. En tout cas, si tu le souhaites, n'hésite pas à prendre la parole. Autrement, je passerai peut-être la parole d'abord à Hugo et ensuite à Chantal, si elle a quelque chose à ajouter à ce sujet. Hugo, je pense que c'est
oui, je peux dire je peux donner une réponse au niveau stratégique, pas forcément au niveau de la mise en œuvre sur le terrain. Le but du cadre global pour la biodiversité et de s'adresser à tous les parties prenantes, que ce soit le gouvernement, les communautés locales et indigènes, et les peuples indigènes, aux acteurs économiques. Et là, dans le cadre, il y a bien des éléments qui renforcent la reconnaissance et la protection des droits des peuples indigènes et des communautés locales. Alors c'est un incentive supplémentaire pour les gouvernements de tenir en compte les intérêts, mais surtout aussi les droits de ces peuples et communautés dans la mise en œuvre des politiques au niveau national. Et je crois que c'est le cadre tel que nous le concevons doit être clair dans ce contexte de souligner que les actions, quand on les met en œuvre, il faut qu'ils reconnaissent les droits et les intérêts de ce peuple. Et c'est évident dans un contexte international, mais je reconnais, là c'est peut-être une question pour Chantal, qu'il y a des actions spécifiques qui sont nécessaires pour soutenir une telle approche au niveau national en coopération avec nos partenaires. Merci.
Merci beaucoup. Et Chantal, aurais-tu peut-être quelque chose à ajouter d'une perspective de coopération ?
D'une perspective de la coopération internationale, il y a toujours un dialogue en fait avec les partenaires. Donc toutes nos délégations, nos ambassades avec les États membres ont un dialogue régulier avec leur contrepartie nationale. Ça, c'est une des manières dont on essaye d'influencer nos partenaires pour qu'ils prennent en compte la biodiversité et qu'ils mettent les moyens appropriés aussi de leur côté, parce qu'on est, nous devons reconnaître en tant qu'Union européenne que nous sommes des acteurs externes. Nous pouvons essayer d'influencer, nous pouvons appuyer, mais nous ne pouvons pas remplacer. Donc il y a ce dialogue politique, il y a tout un travail qui se fait au niveau local. Je parlais des Virunga en RDC, il y a d'autres paysages comme la Garamba au nord de la RDC ou Opemba dans le sud où nous travaillons, ou la Salonga, que je pense certains des journalistes présents doivent connaître. Nous travaillons avec les communautés locales. Et aussi les autorités locales pour les influencer elles aussi. C'est important de pouvoir démontrer que ce n'est pas qu'une question de conservation des animaux et de la nature, mais qu'il y a des intérêts socio-économiques pour les populations, qu'il y a un moyen d'avoir un développement économique vert qui apporte aussi des impôts au gouvernement, au niveau local ou au niveau national. Je pense que ça, c'est tout un dialogue et des démonstrations et des appuis à donner pour avoir un engagement au niveau des pays partenaires. Voilà, j'espère que ça peut aider pour répondre aux questions.
Merci beaucoup. Et je vois que Alice a bien quelque chose à ajouter. Elle a mis quelques phrases dans le chat qui sont très éclairantes. Mais si tu souhaites prendre encore la parole directement, je pense que normalement ton bouton speak devrait être activé.
Okay, can you hear me now?
Yes, we can.
Great. Thank you very much. Yes, I just wanted to add to that question about whether African governments need to be incentivized around biodiversity. And I believe they do not. I believe that African governments are fully aware of the value of nature and biodiversity. I mean, it contributes 70% to livelihoods and 30% to GDP. When you look at nature-based tourism, it's the second largest foreign exchange earner in many countries, only behind remittances. So there is already enough interest in protecting biodiversity. But of course, there are also so many other pressures, like feeding a growing population. There are pressures around deforestation and sustainable use. That's where we need to work better. We need to work more on really reversing those harmful subsidies. As we said, we need to enact better policies And we need more finance to protect biodiversity. Right now, our protected areas only receive a certain percent of the amount of funding that is needed to protect. But otherwise, my sense is that it's not about incentivizing, it's about putting in place the capacity, the technical assistance, and the right policies to protect biodiversity. Over.
Thank you very much. That's very clear. Okay, with this, I will now give the floor to John. John Kajunga. And as ever, you need to press speak in order to take the floor. John, I can see an ominous yellow triangle next to your name, which I think means that we have some bandwidth problem. We can more or less hear you. Go ahead. But you need to be quite concise, I think. John, I think that doesn't really work. So what I would suggest is that we now pass the floor to Mart, I believe, and then we also give the floor to Stanislas Muba, who's with us, who was going to join us at the start. So maybe starting with Mart Akisi for your question. I think we can hear you.
Merci. Alors, bon, j'ai une question pour l'Union européenne, parce que de plus en plus, on se concentre sur la protection des écosystèmes. Et qu'est-ce qu'on en fait de la restauration du peu qui reste? Alors, je voudrais savoir, est-ce que l'Union européenne dispose donc des politiques forte de restauration des écosystèmes avec les pays partenaires, les pays africains partenaires, bien sûr.
Merci beaucoup. Excellente question. Je pense que c'est plutôt Chantal qui sera la mieux placée pour nous parler des projets éventuels de restauration. Elle a déjà touché à quelques-uns d'entre eux, je pense, dans sa présentation. Chantal, voudrais-tu peut-être réagir?
Oui, en fait, je pense que là, je vais suivre un peu l'exemple d'Alice et de dire que les pays africains ont déjà une énorme initiative pour la restauration des écosystèmes, c'est la muraille verte qui va du Sénégal jusqu'à la Corne d'Afrique, et que le rôle de l'Union européenne, c'est d'appuyer nos partenaires africains. Et c'est tout le sens du pledge de notre présidente de 700 millions d'euros par an, où je disais qu'on était parvenu à dépenser, à mettre en place des projets à la hauteur de 714 millions en 2021 et qu'on a bien l'intention de continuer dans cette dynamique. Et c'est toute une question de restauration d'écosystèmes avec des pressions différentes, des modes d'exploitation, que ce soit agricole ou élevage, qu'on essaye d'appuyer. Mais là, on travaille avec les communautés locales, les autorités locales et nationales pour mettre en œuvre des programmes qui sont développés par ces pays, ces régions. Et on est vraiment en appui d'une approche africaine. J'espère que ça peut aider, mais il y a dans le slides que vous allez partager, je pense, avec tous les journalistes, l'exemple qui est là. Et donc, vous pouvez regarder et toujours revenir vers nous s'il y a plus de questions là-dessus.
Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je vois que Alice mentionne aussi dans le chat un autre programme. Souhaiterais-tu prendre la parole, Alice? N'hésite pas à appuyer sur le bouton speaker. Please go ahead.
Yes. Yes, I can complement, of course, the Great Green War that Chantal has talked about with the AFR 100, which is the Africa Forest Landscape Restoration Initiative. This is more than 20 countries that have committed to restore 100 million hectares across Africa. And that's work that's already ongoing. Of course, there's a lot needed in terms of the best science that is needed to where that restoration should happen, the best implementation around, you know, technical assistance around that, but also around finance. It costs a lot to restore. So there's going to be interest in that. But we've seen a lot of big announcements now coming out of COP27 to support this work. So the AFR 100 and the Great Green Wall Initiative have important signals from our African leaders to do restoration. Over.
Thank you very much. And that's indeed a very inspirational program. Okay, we've got about 14 minutes left, which is not very much, and I'm pretty sure we will not exhaust all the questions. But given that Stanislas is now with us, I suggest we give him the floor to make a few of the points that he was going to make, and then we'll see how many questions we can still take afterwards, if that is okay with you. Stanislas, if you can press the speak button, you will have the floor. And I believe that his connection is also perhaps not the best. It looks like your bandwidth is not great. It seems like it's coming.
Oui, bonjour, vous m'entendez?
Oui, allez-y.
Merci beaucoup, désolé pour le retard. J'étais coincé au Parlement gabonais pour l'audition sur la loi pour la lutte contre les pollutions par les plastiques, très en lien avec les sujets de protection de la biodiversité que nous discutons ici. Et donc malheureusement, j'ai dû me libérer avec beaucoup de retard. Je voudrais également remercier la Commission européenne pour de nous donner l'opportunité d'échanger avec des journalistes. Donc je me présente, je suis Stanislas Stephen Mouba, je suis le chef négociateur de la délégation gabonaise dans le cadre des négociations sur la biodiversité. Je suis également négociateur sur les changements climatiques et je suis le coordonnateur au sein du groupe Afrique dans la négociation sur la biodiversité, sur les questions de finances. Effectivement, étant donné le temps imparti, je ne vais peut-être pas vous faire une présentation globale des positions africaines, mais en lien avec les différentes questions qui ont été posées, peut-être simplement partager trois éléments avec notre auditoire du jour. Le premier élément, c'est qu'effectivement, nous négocions un accord dans le contexte d'une convention qui avait déjà un régime existant, mais la négociation de cet accord a justement pour vocation d'arriver à avoir des politiques publiques qui soient mises en œuvre dans nos pays pour agir efficacement selon les opportunités, selon les circonstances, le cadre de chaque pays, arriver à apporter une contribution à l'effort global de préservation de la biodiversité. Et c'est pour ça que cet accord global adresse aussi bien les questions d'objectifs en termes de ce que nous voulons atteindre comme préservation de la biodiversité, que les questions de moyens de les atteindre, donc les moyens de mise en œuvre, le financement, les technologies, la gouvernance nécessaire à pouvoir atteindre les objectifs que nous nous fixons, et bien sûr toutes les parties prenantes qui doivent être impliquées. Le deuxième point, c'est peut-être le bilan finalement de l'existant. Cet accord vise également à corriger la trajectoire de perte de biodiversité que nous n'avons pas réussi à faire dans le cadre de Aichi. Et parmi les points faibles peut-être qui ont été identifiés, c'est le faible engagement des autres parties prenantes. Et parmi ces autres parties prenantes, effectivement, il y a les médias qui concourent fortement à la sensibilisation, à l'information, mais il y a également le secteur privé, les organisations non gouvernementales. Et donc, dans ce nouveau cycle, je pense qu'effectivement, les attentes qui ont été soulevées par certains collègues, de voir comment les organes de presse, peuvent s'organiser pour jouer un rôle plus actif dans la mise en œuvre des stratégies et des sujets de biodiversité vont davantage être adressés, même si effectivement il y a déjà des structures et de gros groupements qui existent à ce niveau-là, ils seront davantage accompagner, assister, mais également devront faire davantage d'efforts parce que il y aura beaucoup plus de pression pour atteindre ces résultats, parce qu'on est vraiment dans une décennie critique et donc il y aura une nécessité d'atteindre rapidement les objectifs que nous nous sommes fixés. Et le troisième point, c'est peut-être les enjeux pour l'Afrique, les enjeux en termes de ce que effectivement, et le collègue de RDC l'a dit, la RDC est un pays solution, l'Afrique est un continent solution pour les changements climatiques comme pour la biodiversité. Et donc le challenge maintenant que les gouvernants ont sur la table, c'est d'arriver à transformer ce potentiel en véritable opportunité qui va améliorer les conditions de vie des populations, qui va améliorer les modèles de développement économique dans les pays, tout en assurant le moindre d'impact possible sur le climat, sur la biodiversité, en termes de pollution. Et donc, c'est vraiment sur cette trajectoire-là que nos pays sont engagés, doivent davantage s'engager, mais dans un contexte, effectivement, où la communauté internationale, les mécanismes multilatéraux permettent véritablement de passer de la question de potentiel, potentiel écologique, potentiel en termes de ressources naturelles, potentiel en termes de terres arables, en termes d'énergie renouvelable, en termes d'habitat et d'espèces critiques, à transformer cela en une véritable opportunité pour faire en sorte que dans nos pays, à Goma, à Tombouctou, dans d'autres régions de l'Afrique, les populations locales sentent que avoir un rôle positif pour la biodiversité, pour les écosystèmes, leur permettent également de pouvoir avoir leur indépendance alimentaire, économique et d'avoir une qualité de vie qui soit améliorée. Donc voilà peut-être les trois points de manière générale que je voulais partager en résumé de la présentation, et puis la présentation qui est un peu plus axée sur la négociation vous sera partagée par mail et pourra être diffusée à l'ensemble des participants. Merci encore.
Un tout grand merci pour cette intervention à la fois concise, structurée et très très pertinente. Nous avons donc à peu près 7 minutes jusqu'à la fin du temps qui nous est imparti. Je propose donc que nous passions rapidement à la peut-être dernière question que nous avons, celle de Badilion Kamanda, dont la main est levée dans le système. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton speak pour prendre la parole.
Allô ?
Oui.
Allô, vous m'entendez ?
Oui, allez-y.
Ok, merci encore une fois de plus. Je reviens, c'est par rapport à ce que nous enregistrons pendant que nous faisons des reportages de terrain. Il y a des associations, des organisations non gouvernementales ou certaines organisations aussi qui s'efforcent à faire des pratiques agroécologiques. Ils essayent de faire des projets pour avoir des financements. Alors là, je m'adresse à l'Union européenne. Généralement, c'est la plainte qu'ils émettent, c'est que pour accéder au fonds ou soit au financement, ils trouvent qu'il y a des conditions qui sont très fortes, donc difficile d'accomplir toutes ces conditions avant d'accéder à ces financements. Alors je me dis, est-ce que c'est possible à la prochaine que l'Union européenne dans son système puisse alléger des conditions pour accéder au financement s'ils trouvent que le projet est passable pour arriver à permettre ces organisations à faire des pratiques agroécologiques? Voilà un peu la préoccupation que je voulais partager, eu égard à ce que nous rencontrons sur terrain. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Je crois que c'est surtout une question qui s'adresse à Chantal pour la question d'agroécologie, accès aux fonds et peut-être un angle COP15, si pertinent.
Oui, mais aussi un angle règlement financier, je suis désolée. Donc on a des règles, malheureusement, en Europe, on doit les respecter. Sinon on se fait taper sur les doigts, mais il y a toujours des solutions. Donc ce qui se passe beaucoup, c'est de travailler soit au travers d'organisations qui, elles, ont les capacités de mettre en œuvre les projets suivant nos règles, qui font du parrainage pour des plus petites associations et donc facilitent en fait l'accès au financement. C'est un peu comme ça qu'on contourne ou qu'on trouve des solutions à nos règles qui malheureusement sont assez rigides pour de bonnes raisons. Mais rendre les choses, je suis d'accord, difficiles pour des plus petites organisations. Et ça se fait un peu partout. Donc voilà, ça c'est un peu l'approche que nous prenons pour nous assurer autant le respect de nos règles financières que l'accès à nos financements pour de plus petites organisations. J'espère que ça peut aider un petit peu.
That's very clear. Thank you very much, Chantal. Look, we've been together for an hour and a half, and I feel like we've only really scratched the surface of everything that we can discuss about these topics. But our time is almost up, so I will have to close this meeting. This said, I would like to perhaps just recall that all of the presentations, including one that hasn't actually been made because of a lack of time, are now available in the system, so please don't hesitate to download them. And of course, we've got all of your contact details, so for any follow-up questions or for any ideas of networking, please do not hesitate to come back to us. Of course, I would imagine that during COP15 in Montreal, many of you will also be interested in covering what is happening, so please also do not hesitate to come back to us during the conference. We will have people on site who will be able to talk to you, to brief you, to inform you about what's happening. I would like to close by thanking all those connected, first of all of the journalists who have been asking questions and following closely what we've been saying, all of the excellent speakers that we've had, and also our brilliant interpreter colleagues, without who we wouldn't have been able to organize this event. Thank you ever so much, and I hope to be in touch with you in the future again. Thanks, goodbye.